réponse à une question. Comment faire pour se préparer pour Pâques? Je vais vous scandaliser, il n'y a pas besoin de se préparer. Et pour me rattraper, je vais vous dire aussi qu'on ne peut pas passer Pâques sans préparation. C'est énorme. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Hein. Il n'y a pas besoin de se préparer parce que le Christ est ressuscité. Il n'a pas eu besoin de nous pour ressusciter, donc on n'a pas à se préparer. Mais si nous, on veut vivre Pâques profondément, d'abord, il faut prendre conscience que pour nous, Pâques doit être tous les jours. Et je devrais même dire que Pâques devrait être pour chaque minute de notre vie. Donc, si vous voulez vous préparer pour Pâques, vivez Pâques. Vivez Pâques, c'est-à-dire vivez ce mystère, vivez en Christ, donc à la conscience d'être avec lui, un avec lui. Vivez sa mort et sa résurrection en offrant votre mort et votre résurrection. Votre mort, notre mort, c'est ce que nous pouvons offrir à Dieu. La résurrection, c'est lui qui nous la donne. Comment vivre sa mort? Évidemment, vous pensez bien qu'il ne s'agit pas de se suicider. Ce n'est pas dans les mœurs de la région, ça. Vivre sa mort, c'est, comme le disent les pères, notamment les pères du désert, il faut avoir développé sa conscience de la mort. Ce qui ne veut pas dire de penser, de réfléchir constamment à la mort idéale que je voudrais avoir, entourée de ma femme, de mes enfants, arrière-petits-enfants, etc., pour leur donner mes dernières recommandations pieuses, à la mesure du possible. Il ne s'agit pas de... Ou la mort par accident. Il ne s'agit pas de penser à la mort de cette manière-là. Mais il est important de réaliser que notre vie est une mort. C'est-à-dire que notre vie est sous le signe perpétuel de la mort. Regardez un élément, par exemple. Vous savez ce que c'est que le moment présent? Ce que c'est que le présent? Moi, je sais ce que c'est que le passé, mais le passé n'existe plus. C'est fini, ça. Je devine quelquefois quelque chose du futur, mais le futur n'existe pas encore, donc c'est encore du néant. Il y a juste le moment, le temps présent. Mais le temps présent, c'est quoi? Il y a 5 minutes, c'était déjà du passé. Dans 5 minutes, ce sera encore au début de l'avenir. Tout ça, c'est encore... Donc, le présent, c'est quoi? Le présent, et pourtant, c'est ça la réalité. Tout meurt, le temps passe, notre vie passe, les choses dont bénéficions, de nos bénéficions que nous utilisons passent, rien ne reste, aussi bien dans le bien que dans le mal, demeure simplement le temps présent. Le temps présent qui est, donc c'est ça, la conscience de la mort. Après la conscience de la résurrection, c'est par la grâce de Dieu, il nous est donné de vivre en même temps que cet aspect de mort, de vivre en même temps une autre réalité, ou une réalité plus profonde, la réalité du royaume des cieux. De vivre aujourd'hui, puisque le Christ est ressuscité, de vivre ressuscité avec lui. C'est ça, ça c'est fondamental, le souvenir de la mort. Et c'est comme ça qu'on se prépare à la résurrection, donc à Pâques. Liturgiquement, si je puis dire, ou par rapport à notre vie spirituelle, la préparation se fait à plusieurs niveaux. D'une part, il y a la préparation liturgique. Vous avez, à Noël, pris conscience que le Dieu invisible, insaisissable, incommensurable, incompréhensible, est venu sur Terre, a pris une existence humaine qui demeure justement au-delà de sa mort, puisqu'il est ressuscité. À Noël, vous avez pris conscience de ça. Si vous avez avancé après dans la vie liturgique, vous avez, je brûle des étapes, mais vous avez eu ce merveilleux carême avec des dimanches pédagogiquement organisés de manière à nous faire acheminer, à nous faire orienter de dimanche en dimanche vers une conscience plus vive de la mort et de la résurrection. Et puis, hier, samedi, nous avons eu la résurrection, nous avons célébré la résurrection de Lazare. C'est une résurrection provisoire. Quelques années après, il est mort de nouveau. Et définitivement, jusqu'à attendre la résurrection à la fin des temps. Par la résurrection de Lazare, il y a un temps qui vient de s'achever. Un temps en Christ, où après avoir vécu, d'abord secrètement, avec sa mère et en partie avec Saint Joseph, pendant sa jeunesse, son enfance et sa jeunesse, à une trentaine d'années, il est entré dans une vie publique, initié à cette vie publique par une femme. C'est la mère de Dieu elle-même qui, aux noces de Cana, l'a incité à faire venir son heure. Mais ce n'était pas encore l'heure. Et puis après, maintenant, et nous avons hier assisté à la résurrection de Lazare, suscitée encore par des femmes, Marthe et Marie, qui sont venues lui dire, si tu avais été là, notre frère ne serait pas mort. C'était une manière parallèle à l'invitation de la Mère de Dieu de multiplier, de convertir l'eau, de changer l'eau en vin aux noces de Cana. C'était une manière de, peut-être inconsciente, mais dans le fond de leur cœur, d'inciter le Christ à faire quelque chose pour leur frère mort, alors qu'elle savait, elle croyait qu'il ressusciterait, mais pensait qu'il ressusciterait simplement au dernier jour. Et le Seigneur clôt cette vie publique par ce miracle de la résurrection de Lazare, cette résurrection provisoire. Maintenant, toujours dans le cadre de cette préparation à Pâques, nous entrons dans une nouvelle démarche, ou la continuité de la même, évidemment. Nous portons les symboles de la victoire, nous portons des rameaux comme les enfants de Jacob, les fils d'Israël. Et nous acclamons par notre foi, nous acclamons le Christ glorieux, parce que nous savons qu'il est glorieux. En acclamant, nous préparons en quelque sorte, par avance, à la résurrection. Nous n'avons pas encore vu, comme les Hébreux, comme les enfants de Jacob, qui chantaient Hosanna au plus haut des cieux, et qui n'avaient pas encore vu le Christ ressuscité. Pourtant, ils l'acclamaient comme tel. À moins que, et là, si je peux dire que ce serait le dimanche ophtalmologique aujourd'hui, le dimanche de la vue ou de la cécité. C'est-à-dire que pendant cette entrée triomphale du Christ à Jérusalem, Les Hébreux avaient deux attitudes. Les uns acclamaient le Seigneur, et je vais peut-être y revenir, ils l'acclamaient comme le roi d'Israël qui devait entrer dans le temple pour y être consacré comme roi. Mais en même temps, vous aviez les opposants, vous aviez les pharisiens qui se scandalisaient de la gloire, de l'allégresse qu'exprimait l'ensemble du peuple. Et quand je dis que c'est le dimanche ophtalmologique, c'est évidemment par plaisanterie, par symbole que je dis ça. C'est-à-dire que devant tous les phénomènes de foi, nous avons un choix à accomplir. Ou nous voyons les choses d'une manière purement humaine, historique, logique, si je puis dire, logique au sens le plus artificiel du terme. Et à ce moment-là, nous sommes scandalisés par ce qui est de l'ordre de la foi. Et nous sommes comme les pharisiens. Éventuellement, nous accomplissons des rites, nous faisons des prières, mais notre cœur n'y est pas. Ou au contraire, le deuxième choix, c'est d'entrer en allégresse avec les fils de Jacob et de chanter les louanges de celui qui vient. Vous avez entendu ? Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, nous avons chanté à plusieurs reprises. C'est le Seigneur qui vient dans le temple de Jérusalem en venant de Béthanie. Et pour ceux qui connaissent les lieux, vous vous souvenez que Béthanie, difficile d'accès maintenant parce qu'on est en train de construire, les Israéliens ont construit un mur de séparation. Mais Bethphagé et Béthanie se trouvent sur le plateau derrière le mont des Oliviers. En passant par le mont des Oliviers, on descend dans la vallée du Cédron et on remonte dans le temple de Jérusalem. On passait par une porte, la porte dorée, qui maintenant est fermée. Et la tradition dit qu'elle ne s'ouvrira qu'à la fin des temps. Et c'est en grande partie un chemin qu'on peut refaire aujourd'hui, qu'on peut faire à pied aujourd'hui. Et on peut voir cet événement-là comme une prophétie, comme la prophétie de notre propre résurrection. Donc si on veut se préparer pour Pâques, entrons simplement dans le mystère liturgique, entrons dans les rythmes que nous donne l'Église. Dans l'Église, c'est l'Esprit Saint qui agit, c'est l'Esprit Saint qui dirige l'Église, c'est l'Esprit Saint qui a organisé en quelque sorte à travers les hommes, qui a organisé la vie de l'Église. Et tout est fait de manière à nous conduire doucement, mais en toute certitude, au but. Donc, préparons-nous à vivre Pâques, entrons dans la vie liturgique, qui va ne faire que durer. Pendant toute la semaine, nous allons avoir encore l'aide pédagogique de l'Esprit-Saint par l'Église, qui, de jour en jour, va nous révéler certains aspects du mystère de la mort-résurrection de Christ, donc de la nôtre, des nôtres. Les trois premiers jours, à l'orthros, nous allons chanter Voici que vient l'Époux. L'Époux, c'est le Christ. Traditionnellement, dans toute la Bible. L'épouse, c'est l'Église, c'est la nature humaine, ce sont les hommes. Donc voici notre époux qui vient. Ne voyons pas à travers cela que des images, mais voyons vraiment une réalité. Oui, l'époux vient. Nous y croyons, nous le voyons. À l'orthros, tous les jours, nous chantons Le Seigneur est Dieu, il nous est apparu. Après la communion, nous chantons aussi, ayant vu la résurrection du Christ. Donc, par cette assimilation, par cette attention au texte liturgique, l'Église nous amène notre cœur à changer de perspective, à voir les choses autrement, à voir les choses plus spirituellement, c'est-à-dire pas en images, pas en imagination, mais dans une autre réalité de notre vie qui n'est pas la réalité déchue, logique, mais qui est véritablement là où nous sommes, là où nous avions, dans l'état où nous avions été créés avant le péché originel. Jeudi prochain, on va célébrer une des plus grandes fêtes, mais je pourrais vous dire ça de tous les jours, de l'année liturgique, avec la Sainte Cène, l'instauration de l'Eucharistie, c'est-à-dire du don que le Christ nous fait de son corps et de son sang, donc de sa vie, alors qu'il ne l'a pas encore réalisé, mais il nous l'offre prophétiquement, il ne réalisera ça que quelques heures plus tard, avec sa passion et sa mort. En instituant l'Eucharistie comme ça, le Seigneur constitue ce qu'est l'Église. Il fait que les hommes qui communient à lui s'unissent, ne deviennent plus qu'un avec lui et tous ensemble, et c'est ça l'Église qui arrivera à sa perfection simplement quand l'Esprit Saint descendra, comme nous le savons à la Pentecôte, où là, l'Église primitive, qui dans un premier temps, le jour de la Sainte Cène, était simplement des 12 apôtres et de quelques disciples autour du Christ, à partir du moment où l'Esprit Saint descendra à la Pentecôte, ce sera l'univers entier qui pourra recevoir la grâce de l'Esprit Saint et donc communier à cela et plus simplement les douze apôtres. Puis après, nous aurons les offices qu'on appelle les saintes souffrances avec les douze lectures d'évangile ou la lecture des 12 passages de l'évangile relatant la passion et la mort du Christ, qui sont vraiment l'office des saintes souffrances, à tel point que nous y participons aussi en restant 3 heures debout sans relâche, ce qui est notre participation à sa crucifixion, à sa passion aussi. Mais ça, c'est accessoire, mais il y a tout de même aussi ça. Parce que notre corps participe. Et puis samedi, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. C'est l'attente. Mais c'est un rien qui est une plénitude. Cette journée sans liturgie, à une petite nuance près, cette journée où il ne se passe rien, nous sommes en attente. Nous sommes en attente de celui qui vient, justement, et à nous de nous ouvrir à sa présence. Présence qui sera comblée, absence, pardon, qui sera comblée par la liturgie de Saint Basile le samedi soir, qui est déjà un office de pré-résurrection. C'est déjà un office de résurrection, l'office de la résurrection, mais d'une manière moins solennisée, d'une manière plus archaïque aussi, et peut-être d'autant plus belle. Et puis il y aura cette merveilleuse office nocturne pascal, où on chantera en permanence « Christ est ressuscité ». Ne nous contentons pas, sans nous contenter seulement de le chanter, mais en le vivant réellement. Pour tout cela, Il suffit de, dans notre préparation, de savoir, de prendre conscience que ce ne sont pas des images, ce ne sont pas des rites, mais c'est une vraie participation à un événement historiquement passé, mais auquel on peut reparticiper aujourd'hui. La raison pour laquelle nous portons des branches d'arbres. Il y a une autre forme de préparation, donc c'est la préparation liturgique. Une autre forme de préparation, c'est pendant ces quelques jours, ces 6 jours qui nous restent avant Pâques, de nous préparer par une prière plus intense, par des lectures spirituelles, de préférence en rapport avec les fêtes que nous célébrons. Mais peu importe, le principal, c'est surtout d'avoir des lectures spirituelles un peu plus que les autres jours. Et puis il y a une autre forme de préparation, c'est notre préparation par notre conversion. Pas simplement en ayant un autre regard sur les événements, mais véritablement en réalisant avec l'aide de l'Esprit-Saint un accomplissement, une conversion de nos cœurs. Si nous portons aujourd'hui des rameaux, un tropère, je ne me rappelle plus lequel, que nous avons chanté pendant l'orthros, il me semble, disait que les rameaux que nous portons, ce ne sont pas tant des rameaux de branches d'arbres, plutôt que les rameaux de nos vertus. Et c'est cela que nous pouvons offrir à Dieu. Qu'est-ce qu'il a à faire de nos branches de laurier? Pensez bien que notre vie spirituelle ne dépend pas de rameaux d'olivier, même si nous faisons attention à les porter comme objet de triomphe et non pas comme des cache-pudeurs. Quand on se les tient, on tient les rameaux vulgairement pour balayer le sol. Mais les vrais rameaux que nous prenons, c'est ce qui germe dans notre cœur, ce que l'Esprit Saint fait germer dans notre cœur, c'est-à-dire les vertus qui sont un don de Dieu. Et pour cela, il est indispensable à la fois de demander à Dieu cette conversion, qu'il utilise notre vie pour nous accorder, pour nous préparer, pour nous rendre conformes à l'aspect, à la vie, si vous voulez, qu'il veut avoir de notre âme pour l'épouser, puisqu'il est l'époux, et qu'il nous transforme en une épouse bien parée. Et il y a une autre manière indispensable de nous associer à cette conversion que suscite l'Esprit-Saint en nous, c'est notamment par la participation non seulement au sacrement de l'Eucharistie, à la communion, mais aussi en renouvelant la grâce du baptême par la confession. L'Église, depuis longtemps, a mis à notre disposition une manière de renouveler l'acte sanctificateur du baptême, c'est la confession. Par la confession, qui ne peut se faire que quand il y a désir de conversion, quand il y a retournement de notre cœur, la confession est indispensable. Parce que le Christ étant incarné, il est devenu le lien entre le Père et les hommes. Et tout ce que nous pouvons accomplir, tout ce que l'Esprit-Saint peut accomplir, passe par le canal de l'Église, par le canal du lien entre Dieu et les hommes, par un sacerdoce, si vous voulez. Et le prêtre qui entend les confessions, je n'ai pas dit qu'il les écoute. Mais le prêtre qui entend les confessions est le remplaçant, le témoin plus exactement, à la place du Christ, d'une part de l'authentique conversion de la personne qui se confesse, et d'autre part qu'il garantit le pardon que Dieu offre aux hommes. Mais pour cela, il y a une attitude préalable absolument indispensable, c'est la prise de conscience de ce qui, en nous, empêche notre conscience de la présence de la présence de Dieu. En quelque sorte, c'est notre péché. Par notre indifférence aux choses spirituelles, par notre manque de charité, par nos adultères de toute forme, je veux dire, par notre oubli de Dieu, par la préférence de soi-même, par notre égoïsme, où on veut tout accaparer, on veut tout avoir. Et tout ça, ça se décline sous maintes formes, par la gourmandise, par le mensonge, je vais pas vous confesser, c'est pas ni me confesser du tout, c'est pas mon but. Mais ce sacrement-là est encore une réception de l'Esprit Saint qui éclaire, qui doit éclairer notre regard pour regarder qui nous sommes. Non pas pour nous décourager, mais pour mieux sentir la présence lumineuse, fulgurante de Dieu, et en comparaison de quoi notre attitude est vraiment peu de chose. Et avec cette difficile présence du prêtre auprès duquel on se confesse à Dieu, il y a cette grâce de Dieu qui passe et qui nous fait mieux percevoir comment notre péché n'est pas une somme de péchés, mais est une attitude fondamentale, celle que saint Paul exprime par exemple en disant que il fait le mal qu'il est et il ne fait pas le bien qu'il veut. Ceci, on peut tous se l'attribuer, montre à quel point notre nature est déchue. On fait le contraire de ce qu'on veut. On fait le contraire de notre bien. On s'attache à des choses matérielles, historiques, je ne sais pas comment vous les exprimez, plutôt qui sont éphémères, de toute manière, on ne les emportera pas au paradis, c'est vraiment le cas de le dire. Et on ne s'attache pas justement à ce paradis, qui lui ne durera pas 20 ans, 50 ans ou 110, mais qui sera éternel, car là est notre vraie vie. Donc si vous voulez vous préparer à Pâques, confessez-vous aussi. Si vous êtes confessé la semaine dernière, c'est pas peine de recommencer aujourd'hui. Mais ayez cette certitude, sentez ce besoin de vous rapprocher du Christ et que ce rapprochement ait lieu, que lui vous accorde le pardon. Car c'était un de ces thèmes de toute cette préparation de carême à Pâques, que Dieu pardonne les péchés, le Christ pardonne les péchés. On a eu plusieurs évangiles qui nous ont montré comment le Christ nous pardonne nos péchés. Et pour être pardonné, il faut regretter. Si on se cramponne dans notre égoïsme, si on se justifie, si on n'a pas une attitude intérieure de supplication de pardon, on ne peut pas être pardonné. Si je fais du tort à quelqu'un et que je me maintiens dans ce tort-là, la personne a beau le vouloir, elle pourra pas me pardonner. Vous êtes des pères et des mères de famille. Quand vos enfants font exceptionnellement quelque chose de mal, s'ils continuent à se justifier, vous avez raison, comment voulez-vous pardonner? Si au contraire, avec humilité, il vous dit, mais je sais bien, j'ai encore fait une bêtise, et bien à ce moment-là, le pardon, il est donné de suite. Bien, on va analogiquement ainsi avec... Donc c'est encore une préparation. Mais l'essentiel de la préparation, c'est cette attitude volontaire, choisie, de nous rendre compte à la fois de la présence de celui qui vient et de notre désir de rencontrer celui qui vient. Si on n'a pas le désir de rencontrer le Christ, toute prière, tout effort, toute victoire sur notre égoïsme peut amener la grâce de Dieu. Mais en soi, la grâce de Dieu n'est pas encore là, on n'est pas encore mûr pour la recevoir. C'est donc par l'effort, ça c'est notre participation, c'est par notre effort à vouloir connaître Dieu, à vouloir nous rapprocher de Dieu, donc en étant sûr qu'il vient, que nous pouvons vivre notre mort et ressusciter avec lui et en lui. Pour cela, il faut encore que nous rentrions dans le mystère de l'Église, c'est-à-dire, Église veut dire assemblée, n'est-ce pas ? Que nous ayons la volonté de faire un, les uns avec les autres. Ainsi, s'il y a entre nous un manque d'amour, un manque de charité, à plus forte raison une haine, ou un refus de pardon, à ce moment-là, l'Église, nous ne participons pas, nous ne manifestons pas, nous ne réalisons pas l'union entre Dieu et les hommes. C'est la raison pour laquelle, avant de pouvoir proclamer notre foi par le « Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant », pendant la liturgie, nous disons « Aimons-nous les uns les autres afin que dans un même esprit nous disions. » Cette union-là est préalable. S'il n'y a pas de charité entre nous, il n'y a pas de contact avec Dieu. La grâce de Dieu peut nous frapper et on peut se convertir. Mais en ce moment-là, s'il n'y a pas cette charité entre nous, Dieu n'est pas là. J'espère avoir répondu aux questions.